Voilà, il est en vacances, il nous fout ça. Du sport est en vacances, il nous a programmé. Légitime défonce, finir sur énergie, c'est sympa.
Ce matin je me lève, ça arrive à des fonds. J'allume la radio, peut-être que j'ai crevé. La nuit même à l'été, c'est dit, ouais. Dans les sons, c'est leur garantie. C'est énergie. Non, je peux pas, non, je peux pas. Non, je peux pas finir sur énergie. Non, je peux pas, non, je peux pas. Non, je peux pas finir sur énergie. Les empreintes et les niveaux de flair, ça pue vraiment la bombe du alimentaire. Musique asservie, lavage de cerveau, pas de braquage, musique vidéo. Tombe à gros, à gros. Non, pas, non, pas, non, pas finir sur énergie. Non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, non, je ne veux pas finir sur énergie. Je ne veux pas.
Écoutez, oula, vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 24, ouais c'est le 24 août 2013, nos programmes pour cet après-midi à 13h30, pas de du sport, pas de résultats sportifs en direct, ni des vestiaires et ni de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h, FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la comédie policière que vous attendez tous.
Et message perso, je crois que l'ordi vient de planter du coup.
Ah ben super.
Magnifique, allez, on envoie à la main.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Alors la scatophilie, c'est sans limite, et ça tombe bien, Hollywood n'en connaît pas. Donc l'avantage, c'est que des merdes, vous pouvez tenter de résister, vous pouvez vous dire « Merde, je vais me faire une raison », puis là, il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Putain, il y a un nouveau Nicolas Cage !» Alors là, vous êtes là « Non, non, ce soir, je dois travailler !» On vous dit « Mais regarde, en plus, il joue un Templier !» Alors, vous résistez pas, vous retrouvez la salle de cinéma, et vous êtes vraiment là, avec votre popcorn dans les mains, à dire « Bon, je me sens sale !»
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec dans cet épisode Ultimatum et Dashcritch en direct des studios de Radio FMR.
Hello my love, I heard a kiss from you. Red Mat and playing it too. All through the morning rain again, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells and tea, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and my cherry pie. Feel sunshine, sparkle, pink and blue. The playgrounds will laugh if you try to ask, or is it cool? Is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be with my baby. I'm free. Fly on over the sea. Candy screen, see speakers of kites with velvet roses, making freedom fly. A present from you, strawberry letter 22. The music plays, I set in for you. Ooh,
days I set in for you.
Strawberry Letter 23, les Brothers Johnsons, et c'est extrait de la bande originale du film Jackie Brown, puisque on est toujours en recherche d'un générique. J'ai dit la semaine dernière qu'il serait plus funky.
Et là, aujourd'hui, il est funky.
Mais il est trop long.
Il est
trop long, je le rejette à l'eau. Allez, plouf,
voilà. Oh, mince, c'est pas celui-là non plus.
C'est pas celui-là non plus. À noter que si on passe donc cette musique, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une disparition mardi dernier. Celle d'Elmore Leonard, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est un grand auteur de western, puis ensuite de polar. Et je me suis reposé jusqu'à ce matin et je me suis dit, bon, je vais essayer du sport, en parler.
Et ouais, sauf que du sport, eh ben, il est chez les Danois, là. Et Xavier s'en est souvenu ce matin.
Voilà, c'est un peu con. Donc, un petit peu parler justement de ça. On va aussi avoir le direct du Rencontre Cinéma de Jindoux, dont c'est la 29e édition, et dont l'intrépide Monique Blanquet sera en direct. Elle est actuellement en train de regarder un film. Donc là, elle sort d'ici quelques minutes du film. On l'aura vers 12h30 là-dessus. Je crois que c'est coûte que coûte. À mon avis, c'est peut-être l'adaptation des chroniques de France Inter à votre écoute, coûte que coûte.
Peut-être.
Ouais. Ce serait bien. On va aussi parler de choses qui font peur, mais attention, c'est pour la transition énergétique.
Oui, d'accord. Ok. C'est une.
J'avais dit que j'avais un gros mal de tronche, que l'émission d'aujourd'hui, j'aurais du mal.
Oui. Et puis
là, j'ai vraiment du mal.
Et puis on retourne à l'école et on enfonce des portes ouvertes. Donc il y aura la question de monstres et de pirates également.
Voilà, et l'introduction, donc ce que vous avez écouté en introduction de cette interview, c'était l'interview de la semaine dernière d'Audio Connard. Et visiblement, elle vous a plu.
Ouais.
Visiblement, tout comme nous, vous avez découvert sa voix, vous avez découvert son esprit d'à-propos, et c'est vrai que sa rencontre était vraiment un grand moment, et en tout cas ça vous a plu. Je sais pas si vous avez écouté le reste de l'émission.
Bah, j'espère quand même. Bon, c'était une émission avec un programme complet, donc très 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 rempli. Donc
ouais, un programme court, complet, note artistique, note technique, voilà. Et patin sur glace.
Voilà, nous on donne quand on écoute une émission, il y a de l'info dedans. Il y a du programme, on va dire. Voilà.
Ouais, c'était ça ou finir sur énergie. Non, pardon, désolé. Bon, alors, donc, qu'est-ce que l'on a dans les news? Il y a eu une étude assez amusante qui a été faite par des scientifiques financés par des... apparemment, je n'en sais absolument rien, par qui ils ont été financés. En tout cas, ils ont fait une étude intéressante, c'est comment peut-on mesurer qu'un film à très gros budget va, oui ou non, être un succès en salle. Alors, vous connaissez peut-être, si vous en avez entendu parler, si vous êtes un petit peu intéressé au plan promo des cinémas, ils sont tous là stressés le mercredi à 14h en France pour savoir quels vont être les chiffres en fait d'entrée. La première séance, celle du mercredi 13h, le moment où les gens travaillent. Hein. Ouais, d'accord. Donc pour savoir si le film va ou non très bien marcher, uniquement basé sur 10 salles parisiennes. Mmh. Ok, soit. Aux États-Unis, en général, c'est à peu près la même chose. C'est en fait, je crois qu'il y a une question, il y a un panachage de salles de cinéma à Broadway, à Los Angeles et dans le Middle West. Dans le Middle West. Donc je ne sais pas trop exactement comment ça marche. Et après, on fait donc les scores où on chiffre, non pas en entrée, mais
en dollars.
Ce qui est beaucoup plus lisible effectivement pour les financiers, mais du coup on oublie qu'il y a la marge quand même des cinémas. Et aussi on oublie que des fois on a gonflé le prix des cinémas avec les lunettes 3D, le popcorn, etc. Patin couffin, bref, c'est incalculable. Et ben donc là, la nouvelle unité de mesure entre guillemets sur donc les la performance éventuelle d'un grand film de cinéma pour savoir si oui ou non il va marcher, je vous le donne entre mille, c'est le nombre d'éditions dans la fiche Wikipédia du film.
Oh là, ah oui.
Voilà qui va faire plaisir à Rémi Matisse et à Adrien Alix. Donc si maintenant Hollywood se basera sur est-ce que le film de plus de 500 millions de dollars de budget va tourner ou non, eh ben on va se baser sur non plus sur ces messages, non plus sur les entrées, mais maintenant directement sur est-ce qu'il y a eu beaucoup d'éditions dans Wikipédia, est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Non, on revient à la précédente version parce que là t'es gentil Coco, mais c'est pas très encyclopédique la manière dont t'en as parlé, et tout le reste reste à voir. Personnellement, moi je n'y crois moyen. La précédente unité de mesure qui était utilisée mais réellement dans chez les distributeurs, c'était le nombre de messages sur Twitter.
Eh ben écoute, même si c'est négatif.
Alors justement, on va y venir. Faut savoir que la précédente unité de mesure qu'ils avaient tenté d'instaurer vers 2004-2005, c'était le nombre de SMS envoyés à telle heure exactement, uniquement en dehors du centre-ville, donc là où tu as uniquement les centres commerciaux. Et à ce moment-là, Hollywood avait proposé, c'est sérieux, ils avaient demandé aux opérateurs de téléphonie de dire ce serait bien si vous surfacturez les SMS à ce moment-là parce que vous avez beaucoup de trafic et en même temps du coup les gens ils y penseront à deux fois avant de dire non on ne va pas voir ce film, c'est une merde. Je jure que c'était vraiment pour ça, c'était pour pas que les gens entre guillemets spoil, sous-entendu pour qu'ils ne disent à leurs copains, c'est franchement.
Donc en gros Hollywood a suggéré aux fournisseurs de téléphone, enfin de forfait, de surfacturer pour ne pas qu'il y ait du bouche à oreille.
Exactement. Donc, évidemment, ça n'est pas passé parce que les opérateurs ont dit ouais, c'est très intéressant, mais d'un autre côté, je vous rappelle qu'il y a une loi aux États-Unis, elle existe aussi en Europe, heureusement. Ça s'appelle l'entente sur les prix. comme par hasard, le vendredi soir de sortie des très très grands films, les SMS sont plus chers. Comment ça se fait? Expliquez-vous devant le Sénat. Comment dire, c'est Hollywood qui nous a passé un coup de fil. Ça aurait on y croit vachement. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant que Wikipédia, justement, on ait une corrélation. Ça veut dire, d'un autre côté aussi, que malheureusement, il y a des films qui n'ont pas le succès, entre guillemets, encyclopédique qu'ils méritent.
Sinon, une autre news concernant le cinéma, c'est vrai que nous mettons ici certains points d'honneur dans cette émission régulièrement. Nous ne sommes pas des moutons, donc aujourd'hui...
Oh merci.
Voilà, aujourd'hui, nous ne parlerons donc pas du tout du fait que Ben Affleck est le nouveau Batman. Mais pas du tout, nous n'en parlerons pas, sachant que...
Donc Ben Affleck ne sera pas dans le nouveau Star Wars.
Pourquoi tu dis ça?
Ah oui, note, c'est pas correct.
Non.
Forcément.
Non, Ben Affleck, nous ne parlerons pas du tout du fait que Ben Affleck sera dans le Batman et Superman du prochain Zack Snyder, et donc nous ne mettrons pas l'accent sur le fait que Daredevil donc va endosser le masque du justicier de Gotham City, et donc nous ne mentionnerons donc pas la filmo de Ben Affleck récente qu'il a un peu rehaussé au niveau d'Hollywood, et donc nous ne parlerons pas donc de tous les navet qu'il a dans lequel il a joué version évidemment période Daredevil période
ouais mais bon voilà il a fait The Town.
Oui mais ça c'est en tant que réalisateur et il joue dans ses propres films.
Tout cela pour dire que finalement la justice reste aveugle.
Oui.
Même quand elle passe de Marvel à DC.
Voilà, donc c'est marrant parce qu'il y a
Non, elle est nulle.
Alors c'est vrai que nous ne parlerons pas non plus des réactions multiples et variées sur internet. On ne parlera pas non plus du fait que Ben Affleck, il y en a qui ont dit oui, bien dirigé par des bons réalisateurs, il peut être très bon. Alors d'autres qui ont répondu oui, c'est pour ça qu'il est très mauvais dans Argo. Bon, voilà, donc c'est... Voilà, Ben Affleck, nouveau Batman. Nous n'en parlons. Voilà, nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas des suiveurs.
Et le mouton, lui, il aura regardé, il aura lu donc les Batman saga et franchement, ça déchire.
Ouais.
Voilà. Cette semaine, on a appris la disparition de Elmore John Leonard Jr. qui est parti quand même à un âge canonique, celui de 88 ans. Il est né en 2025 et donc il nous a quitté le 20 août dernier.
Il est né en 2025.
Oh putain. En 1925.
D'accord.
Voilà, pardon, désolé. Il a été...
Ça part mal, hein.
Oui, je sais, pardon, désolé. On l'a surnommé Dutch. Son enfance, il a eu une enfance où il était ballotté à gauche, à droite des États-Unis, puisque son père était employé par General Motors pour trouver des sites pour implémenter des usines automobiles. Et il est revenu, ils sont réellement installés, je vais dire, d'une manière fixe, en 1934 à Détroit. Et c'est une ville qu'il ne va pas vraiment quitter après du reste de sa vie. Et c'est là où il va y consacrer une partie de ses romans, du moins la partie qui concerne plus exactement les polars. C'est aussi une année qui est relativement importante. Il a 11 ans à cette époque-là. Et on va dire que il se passe, c'est le moment, l'année où il arrive, c'est l'année où Bonnie et Clyde se font abattre. C'est donc le couple amoureux désespéré qui sur des destriers qui galopent à fond, c'est-à-dire les fortes, hein, quand même, on va pas exagérer, mettez en coupe réglée, je vais dire, pardon, excusez-moi, ben les villes, et ça va l'inspirer, Elmore Leonard, quand il aura fait l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il va être démobilisé, il va commencer à écrire pour des westerns, genre qui à cette époque-là est porteur. Et c'est justement une époque où il est facile de placer des westerns dans ce que l'on appelle fort logiquement des pulps. Hein, voilà, donc de la littérature de guerre, il va en faire et il va arriver par hasard à être adapté au cinéma dans des productions qui vont en général pas cartonner de suite, puisque le deuxième film qui est adapté, le deuxième de ses scripts qui va être adapté à l'écran, c'est 3h10 pour Yuma. Donc voilà, hein, c'est plutôt un film qui va plutôt cartonner. Ensuite, il y aura L'homme de l'Arizona, Ombre de Martin Reed, La guerre des bootleggers de Richard Quine, et ça va bien cartonner. Dans le milieu des années 70, quand même, le western commence à être un genre qui est un peu trop utilisé, qui passe un peu trop souvent à la télévision, qui a même été parodié par les Italiens. Il se dit, bon, il faudrait peut-être que je pense à autre chose. Et c'est là où il va passer au polar. Et là aussi, eh ben, il va réellement, cartonner dans les romans. C'est là où il va se faire connaître. C'est là où bizarrement, en 1984, si je me trompe, il est enfin récompensé. Il a enfin donc un award officiellement en tant que romancier. Et c'est là où le New York Times va dire: on découvre enfin un jeune écrivain de seulement 32 romans.
Ouais, d'accord.
Voilà, dommage entre guillemets, mais malgré tout, eh ben, il ne va pas être en froid, loin de là. Il aura du succès. Il va être là aussi à nouveau être adapté avec par des cinéastes qui vont là aussi bien faire d'excellents films. Stick, le justicier de Miami, de et avec Burt Reynolds. Cat Chaser d'Abel Ferrara, bizarrement très peu connu, mais qui est l'un des films d'Abel Ferrara considéré comme l'un des meilleurs. Il y a Get Shorty de Barry Sonnenfeld. Le Rum Punch qui sera adapté en Jackie Brown par Quentin Tarantino. C'est pour ça qu'on a passé cette bande musicale. On va en reparler. On va en parler un petit peu après de Jackie Brown. Hors d'atteinte de Steven Soderbergh. La grande arnaque.
Attends. Steven Soderbergh. Donc c'était le premier film dans lequel George Clooney était bon. Ce Hors d'atteinte avec Jennifer Lopez. Alors s'il y avait une signature, peut-être que tu vas en parler après, de Elmore Leonard, c'est que dans ses romans il y avait les personnages qui étaient les héros de certains qui devenaient des héros secondaires d'un autre. Et donc pour respecter ce petit schéma là, il y a Steven Soderbergh et Tarantino qui se sont entendus. Le film de Tarantino est sorti avant Hors d'atteinte, et donc Soderbergh, en fait, pour être fidèle à l'esprit de Elmore Leonard, il a récupéré donc une partie du casting de Jackie Brown pour le faire jouer dans son propre film. Donc c'est vrai qu'on y voit Michael Keaton par exemple dans l'agent des brigades de la brigade des frontières qui vient faire une apparition dans dans Hors d'atteinte puisque c'est l'ex-petit ami de Jennifer Lopez. Voilà, donc ça reprend l'esprit de Elmore Leonard.
Et à partir de là, ben donc il va avoir d'autres adaptations Hors d'atteinte donc de ce Stephen Soderbergh, La Grande Arnaque qui est un remake mince, je l'avais noté. C'est un de Une si belle garce qui a été tourné en 1969, Be Cool de Gary Gray et il a terminé il y a eu Kill Shot excusez-moi de John Madden. Et en 2010 a été annoncé une série télévisée dans lequel il va encore avoir un succès, c'est Justify dans lequel il sera coproducteur d'ailleurs hein. Une série télévisée je crois en 6 téléfilms si je ne me trompe. Il a aussi été adapté en bande dessinée en France par Olivier Berlion, Le Kid d'Oklahoma qui est sorti chez Casterman en 2010, mais ça je ne l'ai pas lu donc je ne saurais vous dire. Bref, tout cela pour dire que c'est un auteur qui a quand même bien cartonné. Il avait un style qui était assez particulier. Il a pas fait des polars qui étaient noirs, mais c'était plutôt des comédies. En soi, justement, c'est-à-dire, il a eu sa période noire et ensuite, il a tourné vers la comédie. Et il avait aussi un style très percutant à l'écrit. Il le dit lui-même. Il a un bouquin il a écrit un bouquin. J'ai oublié.
Je pense que t'as imprimé trop de fiches et trop de papier.
Voilà, j'ai été un petit peu vite. Voilà, les 10 rules of writing, donc les 10 règles d'écriture d'Elmore Leonard, il dit « Ma règle la plus importante est une règle qui résume les 10 autres. Si cela ressemble à l'écrit, je la réécris. » Et en fait, voilà, donc il n'hésite pas à absorber le texte, à écraser le texte, je vais dire, des protagonistes dans les dialogues. Il faut que ça soit vivant, il faut que ça parle. Mon style, c'est l'absence de style, il l'a déclaré par la suite. Et c'est justement cela qui fait que ça marche, le fait que c'est un humour qui est très corrosif, très incisif et qui claque comme un fouet, comme du temps où il faisait les westerns. Bref, là-dessus, il aura vraiment, vraiment, vraiment marché. Il aura eu une tendance assez particulière, une tendresse assez particulière avec Quentin Tarantino. Il l'a rencontré justement parce que Tarantino a fait donc ses... Je crois que c'est l'une de ses rares adaptations hein, finalement qu'il a faite au cinéma.
La seule. Après, si on peut considérer les remakes ou les hommages comme des réadaptations, mais en tout cas, une adaptation à partir d'un roman, c'est le seul et unique pour l'instant.
Et le cinéaste a expliqué que quand Tarantino a expliqué à Elmore Leonard, c'est Elmore Leonard hein, qui raconte ça, il a dit une fois il a vu dans une librairie mon nouveau roman Switch et il l'a volé, il s'est fait prendre, il s'est fait sermonner. Et il l'a volé dans une autre librairie. Et en soi, c'était une certaine honnêteté et tout. Donc pour lui, il avait une certaine affection pour Tarantino. C'est peut-être le film bizarrement qui est le moins apprécié de Tarantino, sur lequel il y a le moins de souvenirs. Alors que justement, à mon sens, c'est le plus personnel. Là où il a mis une patte, c'est que l'héroïne du roman originel, il en a fait une noire. Il a pris Pam Grier. Là-dessus, voilà quoi. On connaît vraiment la patte que ça a amené. C'est aussi l'un des films dans lequel la violence est le moins présente puisque tout se passe soit hors écran, soit de très 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 loin. On ne voit pas vraiment les meurtres.
Oui, il y en a très peu. Il y en a trois. Je crois qu'il y en a trois dedans. Quelques mots sur Jackie Brown. C'est un film qui est sorti en 97-98. C'était à l'époque où il sortait de Pulp Fiction, où tout le monde s'attendait. Comme Pulp Fiction, c'était des tueurs à gages avec des costards noirs qui reprenaient aussi l'esthétique de Reservoir Dogs et tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse à nouveau un film glorifiant les gangsters avec des tenues super cool, avec de l'hémoglobine partout. Et c'est vrai que les gens ont été très décontenancés en voyant Jackie Brown, qui est plus un hommage de Tarantino à la blaxploitation et surtout au temps qui passe, où il prend des vieux acteurs qui ont vraiment tourné dans ce genre de film et qui parlent de leur chute de cheveux, de la prise de poids, etc. Et c'est vraiment un film très nostalgique et très mélancolique. Après on retrouve aussi la patte de Tarantino sur plein de plans, les fétichismes des pieds, le personnage de pour des crétins comme le personnage de Louis Garrade incarné par Tarantino, où il fait un duo vraiment extraordinaire avec Samuel Jackson qui incarne un Ordell Robbie complètement bigger than life avec une tignasse complètement improbable et des goûts vestimentaires à nouveau encore une fois qui sortent un peu de l'ordinaire, des répliques qui tuent évidemment, mais c'est vrai que là on voit que Tarantino se pose et on voit que c'est quand même un cinéaste qui était mature à cette époque-là et qui pouvait faire autre chose que des porte-flingues qui butent des mecs sans faire exprès dans des bagnoles. Après bon, c'est vrai que Tarantino n'a pas poursuivi dans cette voie-là puisqu'il est parti ensuite vers Kill Bill, vers Boulevard de la Mort et a fait la carrière ensuite que l'on sait avec des films qui ont divisé l'opinion publique sur les deux derniers notamment. Mais c'est vrai que Jackie Brown restera quand même une pépite et un ovni dans la carrière de Tarantino pour l'instant et qui, à mon sens personnellement, est mon film préféré du bonhomme. Ça, sans, y a pas à discuter là-dessus. Voilà.
What is it to you? Bill Winters, toujours extrait de la bande originale de Jackie Brown.
We face, just try to stare me down. And when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who we is, but I think that you do. Who is he and what is he to you? I have something in my heart and in your eyes. Tell me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? Dadgummit, who is he and what is a he to you? Now when I ask the sun of you and me, I get confused and I keep coming up with three. You're too much for one man, but not enough for two. Dadgummit, who is he and what is a he to you? Intuition, la la, is that what you really think, little girl, or are you wishing? Before you wreck your old home, be certain of the new. That comet, who is he and what is he? Thank you.
Why have you been avoiding me? Et je voulais dire, on va pas se mentir. Hein? Je sais que tu m'en veux.
Tu te rends pas compte, c'est l'enfer de les voir défiler.
Radio éphémère vagabonde avec les 29e rencontres cinéma de Jindou du 19 au 24 août, tous les jours à midi dans les magazines culturels, des chroniques, des interviews, l'actualité du programme, l'ambiance sonore, les extraits de films. Tout cela, c'est Jindou 2013 à midi sur Radio éphémère.
Et nous recevons donc en direct de Jindou notre Frédéric Mitterrand féminine. Bonjour Monique, comment vas-tu?
Eh bien bonjour Xavier, tout va bien depuis les rencontres cinéma de Jindou. Oui, voilà, nous étions là le week-end dernier, nous avons mis en boîte plein d'entretiens, d'interviews donc, qui ont été programmés tous les midis. Les magazines culturels nous ont accueillis. Et puis là, c'est la dernière, c'est le dernier jour. Il y a du vent, il a plu, c'est bon pour les champignons, mais pas pour les projections. Voilà, j'ai voulu faire une rime, un peu malencontreuse peut-être. Et voilà, et là on s'est mis à l'abri du coup pour pouvoir se parler tranquillement, voilà. Alors Xavier, qu'est-ce que vous voulez savoir sur les rencontres cinéma de Jindou?
Alors, oui, bonjour Monique. Oui, tu disais qu'il pleuvait, mais ça c'est bon pour les salles de cinéma, ça. Les gens vont se recroqueviller dans les salles obscures, ça.
Ben, en fait, à Jindou, ce qui se passe, c'est que les projections en soirée se font dans le cinéma de plein air, que j'ai sous les yeux, là, qui est un grand amphithéâtre, un cinéma de verdure, ça s'appelle. Unique en Europe quand même, avec un maxi écran, c'est assez magique parce qu'on est sous les étoiles et sous la chaleur, c'était ça le jour précédent. Et après derrière, il y a ce qu'on appelle le Luxor, qui est un nouvel outil, qui est une salle de projection donc couverte, qui accueille les projections de la matinée et de la journée. Et voilà, donc tant qu'il pleut en journée, ça va, mais ce soir, ce serait bien que la météo soit favorable. Et comme tous les ans, le principe de Jindou, c'est d'accueillir un réalisateur ou une réalisatrice. En l'occurrence, cette année, c'est Claire Simon, qui n'est pas forcément très très connue du public, du grand public, qui a fourni un court-métrage qui s'appelait Récréation et un film Les Bouts de Dieu, qui a eu quand même un certain écho. Et elle a une prochaine actualité, Gare du Nord, qui va paraître le 4 septembre. Voilà, parce qu'à Jindou, il y a plein d'avant-premières, en fait, qu'on découvre ensuite dans l'année. Et le matin, dans le Luxor, il y a la projection de toute la filmographie, enfin, toute ou partie, hein, puisque l'année dernière, c'était Dédiguian, et donc tout n'a pas pu être proposé. Il y a eu Atiko Rismaki, il y a eu Alain Tanner, enfin bon, c'est des réalisateurs qui ont une grosse filmographie, donc il y a une sélection qui se fait par l'équipe de Jindou de cette filmo. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la semaine, on peut voir le parcours d'un réalisateur, et ça, c'est un luxe.
D'accord. Donc tu nous parlais de Claire Simon tout à l'heure. En consultant le programme, nous avons pu voir qu'il y avait aussi le duo Frédéric Rouzière et Raphaël Moutarde, et ainsi que Bernard Blancan, c'est ça?
J'entends pas très bien là. C'est...
Ah oui, Xavier m'a pas mis le téléphone assez près. Alors oui.
Ah voilà, là c'est mieux.
Voilà, donc on disait c'est oui. Outre Claire Simon, on a pu voir en regardant un peu le programme du cinéma qu'il y avait également le duo Frédéric Rouzière et Raphaël Moutarde, et ainsi que Bernard Blancan. Qui sont des cinéastes. Oui. Est-ce que tu as pu voir leurs films aussi à eux, et qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que les gens ont apprécié?
Alors je les ai pas vus parce qu'il faut savoir qu'il y a une énorme liste de films, et en réalité nous étions là le week-end dernier et ce week-end, et en montage et sur Toulouse toute la semaine, donc on n'a pas vu. Il y a eu aussi un film de comment ça s'appelle, Moreau. J'ai un doute là, je ne me rappelle plus. Je regarde mes petits papiers parce que voilà, c'est dense quand même. Comme...
Oui,
je suis désolée, je n'ai pas.
Non, il n'y a pas de souci. On a vu sur toute la semaine.
De Moreau, voilà, c'est ça. Oui, pardon. Oui.
Oui, on a vu sur toute la semaine qu'il y avait la programmation qui était pas, qui était assez fournie. Hein, le contenu était assez assez complet, donc c'est normal. Il y a beaucoup de films, oui.
Alors c'est vrai qu'il y a des courts métrages, des longs métrages. Il y a après toute une partie, une programmation plus patrimoniale. C'est la soirée de la Cinémathèque. C'était hier au soir, où il y a eu deux projections, L'amour c'est gay, l'amour c'est triste, de Jean-Daniel Paulet, avec la magnifique Bernadette Lafont, qui est aujourd'hui disparue, mais elle était toute jeune. Hein. C'est l'histoire d'un tailleur et de sa sœur, qui est incarnée par Bernadette, et qui en fait se prostitue. Enfin, bon, c'est une petite fable, un peu, qui se passe à Paris, dans le milieu des commerçants juifs. Et l'amour c'est gay, l'amour c'est triste, parce que voilà, les histoires sentimentales, c'est compliqué. Et puis après, il y a eu Les Amants de Vérone, qui est un film d'André Cayatte, un des premiers films d'André Cayatte, on a découvert là aussi Annick Aimée, toute jeune, et Serge Reggiani, donc c'est une des premières apparitions avant Casque d'or. Et là, c'est un petit peu l'histoire de Roméo et Juliette. Mais c'est un film qui se fait sur les Amants de Vérone, et c'est le cinéma dans le cinéma, donc voilà, c'est un classique du genre, on va dire. Mais aujourd'hui samedi, la programmation est alors ce matin là, je viens d'assister à la projection de Coûte que coûte, un long métrage de Claire Simon. Sur l'histoire d'une petite entreprise qui ne voudrait pas connaître la crise. On nous a expliqué que c'était le premier triptyque d'un volet sur le capitalisme. Elle n'a pas pu boucler faute de finances, mais ce film-là, qui dure 1h40, ça explicite un petit peu les difficultés d'un chef d'entreprise et de ses employés surtout, avec toute la gymnastique pour payer les uns, les fournisseurs, les employés. Et l'histoire se termine avec un dépôt de bilan. Hein. De toute façon, c'est d'une cruelle actualité. C'est quelque chose qui avait été tourné en 1984, je crois, donc il y a quelques temps. Voilà, et Claire Simon, elle a cette magie de faire quelque chose qui est entre le documentaire et la fiction, avec un style qui lui est bien particulier, un travail sur le fond sonore, puisque là c'est Arthur H qui fait la bande son, et sur d'autres, sur sa prochaine actualité, Gare du Nord, elle a tout un travail de création sonore avec les bruits de gare, et puis un travail esthétique aussi qui vaut la peine d'être vu, et qui finalement a la hauteur de qualité des cinéastes, des réalisateurs de longs métrages dits classiques. C'est-à-dire que dans le cinéma, il y a souvent pas deux écoles qui s'affrontent, mais finalement il y a un petit peu une guerre d'étiquettes entre les réalisateurs de documentaires et les réalisateurs de fiction, avec une espèce de hiérarchie un peu sotte. Et Claire Simon est quelqu'un qui a bousculé un peu ses frontières. Elle a enseigné à la FEMIS, et dans le métier, elle fait référence. Ses productions sont souvent diffusées sur Arte. Bon, voilà, et c'est pas du grand public, mais c'est de la grande qualité. Et elle a décloisonné un peu cette histoire de réalisateur documentaire, réalisateur fiction, avec, comme s'il y avait la grande cour des réalisateurs et puis les autres. Et Jeanne Doux a ce mérite aussi de décloisonner les genres en donnant la parole à des thématiques sociétales, essentiellement, hein, les migrations, mais aussi les histoires d'amour qui finissent mal, en général, comme disait Catherine Ringer. Voilà, mais il n'y a pas véritablement de thématique, hein, sur les éditions.
Et nous avons pu voir aussi, on a un peu préparé l'émission, il y avait aussi une thématique, enfin une thématique, une espèce de une catégorie qui était vagabondage cinématographique. Et nous avons pu constater qu'il y avait deux films d'animation. Donc oui. La première, donc c'était L'image manquante de Ritipan, donc c'était celui qui avait fait S21, la machine de mort Khmer Rouge. Donc c'est à nouveau sur le Cambodge. Donc le retour oui. de Ritipan. Et également.
Il passe aujourd'hui à 13h.
Voilà. Donc il passe aujourd'hui à 13h. Et ainsi que. Alors oui. ça, c'est plus surprenant par contre. C'est le film d'animation Lettre à Momo du japonais Hiroyuki Okura, qui parlera beaucoup aux fans de Japanimation plus grand public, puisque c'est le réalisateur de Jinro. Et c'est un collaborateur sur le Ghost in the Shell numéro 2. Alors ça, c'est vrai que c'est assez surprenant, puisque tu nous parles de films plutôt qui sont pas du tout grand public et qui est plutôt un festival orienté cinéma d'auteur avec beaucoup de documentaires. Oui. Et c'est vrai que retrouver ce genre de film d'animation est assez surprenant.
C'était une avant-première, c'était mardi 20, oui. Et effectivement, il faut glaner dans la programmation, il faut glaner un petit peu. Bon, mais vous, c'est vrai que vous avez été alerté par ces deux propositions. L'image manquante, Marie Virgo, qui s'occupe de la programmation de Jindou, me disait que le film n'était pas encore financé pour la diffusion, mais voilà, il y a un petit coup de pouce de le proposer ici. Et on verra si ça passe après, si ça passe dans les salles. Il y a l'avant-première de Jafar Panahi aussi, Close Curtains. Jafar Panahi, qui est ce réalisateur remarquable, qui a été interdit de parole, enfin d'expression en tant que réalisateur pendant des années. Et là, il est cantonné dans son pays et en même temps, il fournit quand même, il produit des choses et Jindou se fait le relais de ses réalisations parce qu'il a un style tout à fait spécifique véritablement. Et là, bon, d'après l'équipe, on l'a pas encore vu, on va le voir ce soir à 19h15. Bah, ce film est plus sombre que les autres parce qu'il y a en quelque sorte il y a un peu un épuisement de ce bridage de liberté qu'il doit vivre. C'est quelqu'un qui avait été soutenu par Juliette Binoche quand elle était présidente du jury à Cannes. Elle avait fait toute une mise en visibilité de son statut. Et voilà, et c'est une fidélité à Jindou parce qu'il y a régulièrement toutes les réalisations qu'il a pu produire ont été montrées ici. Il y a une autre avant-première, c'est Les Conquérants de Rabih Mollia avec Denis Podalydès. Mathieu Demy, ça va sortir le 25 septembre. Ça fait partie des vagabondages cinématographiques et des longs métrages. Donc c'est vrai qu'il y a une... Il faudra venir là bientôt l'équipe des suppléments week-end. Parce
oui.
Jindou fête l'année prochaine ses 30 ans et franchement c'est au milieu du lot comme ça dans un village. Il y a un équipement professionnel, il y a une équipe de professionnels qui tout au long de l'année gère aussi des accompagnements de tournage. Voilà, ça n'est pas comme ça parachuté un festival. Hein. D'abord, c'est pas un festival, c'est des rencontres au pluriel et ça veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir qu'il y a un certain nombre de présences. Hein. Les réalisateurs sont au maximum présents, ça aussi. C'est tout à l'honneur des rencontres.
Eh bien, écoute,
après, il y a autre chose peut-être. Oui.
Oui, je disais, écoute, on est comme on est en direct à l'antenne, on s'engage, on essaie pour la 30e édition, on essaiera de venir au moins assister à une projection au festival de Jindou,
puisque c'est le samedi ou voilà, ce serait bien. Il y a quelqu'un qui est proche de la radio qui s'appelle Momar Désiré Khan qui a présenté hier E.T. comme enfant de troupe sur les enfants soldats. Voilà, il y a plein de choses à glaner. Il y a Christine Marou, qui a une réalisatrice aussi, qui vit sur Cahors, qui a proposé Les Échoués. C'est des petits formats, mais je crois qu'il y a un peu pour tous les goûts, c'est pas le propos de faire l'unanimité, mais réellement, il y a un nombre d'avant-premières impressionnants, des présences, voilà, c'est pas... C'est très chaleureux, on arrive avec son duvet, on s'installe dans le cinéma de verdure, duvet ou plus, et il y a une espèce de climat assez paisible ici. C'est pas... Et on peut côtoyer les réalisateurs, tout ça, sur la petite restauration qui est là, ou sur site. Il y a un temps de rencontre et d'échange tous les jours en fin de journée, qui s'appelle les tchatchs, où l'équipe de Jeanne Doux converse avec les réalisateurs et le public. Voilà, c'est une formule vraiment qui est de qualité, que dire de plus.
Tu nous donnes envie d'y aller. Donc, on rappelle donc la référence. Donc, les rencontres cinéma de Jeanne Doux du 17 au 24 août, ça finit aujourd'hui. Et puis de toute façon, on peut réécouter peut-être le programme culturel de la semaine sur FMR
podcast. Je pense que Philippe Pité a mis sur un lien pour écouter les chroniques de la semaine. Et puis sinon, sur le site de Jeanne Doux, effectivement, il y a tout ce qu'il faut.
Jeandoucinéma.com, J-I-N-D-O-U, cinéma au singulier.org. Pardon, excusez-moi, voilà.
Je vais y aller. Et voilà.
Bon, eh bien, merci, merci beaucoup à toi, Monique, et puis bonne fin de festival et bonne dernière projection au pluriel aujourd'hui, et en espérant que la météo ne vous joue pas des tours là-bas.
Bon, la météo est un peu fragile, mais il y a un repli dans le Luxor, il y a 300 places, c'est vrai que ça rentrera pas tout le public, mais bon, on va essayer de faire avec. Merci au supplément week-end d'accueillir les chroniques Jeanne Doux depuis plusieurs années. Et puis, c'est un moment, c'est super de se parler à cette occasion et on se donne rendez-vous pour la 30e. Peut-être sur site, ce serait bien. Oui.
Merci beaucoup, Monique, mais de toute façon, tu es toujours la bienvenue pour venir dans notre émission. Si ça te dit un petit peu pour faire.
C'est vrai, je suis invitée régulièrement, c'est vrai.
Voilà, merci à toi et amuse-toi. Allez, bien pour une bonne projection. Merci, ciao.
Allez, au revoir.
Et merci à Dominique sur place qui faisait la technique. Mais là, c'était en insert téléphonique, c'était un petit peu différent comme dispositif. Tout à fait autre chose, ma foi, du grand écran, très grand écran, mais...
En livre. Ah oui, on enchaîne direct ?
Oui.
Allez.
Allons-y.
Alors, nous allons parler à présent d'un artbook. Alors, ça fait pas mal de temps quand même, soyons honnêtes, il est sorti, mais par contre j'avais jamais eu l'occasion dans cette émission de le chroniquer. Donc ça s'appelle Axis Mundi, c'est édité chez Café Salé, et Café Salé Inc, pardon. Donc ils ont la particularité d'éditer des artbooks qui sont tous avec des noms en latin ou des noms un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc Axis Mundi de Mathieu Loffray. Mathieu Loffray, ce nom vous dira peut-être pas grand chose, alors...
Si, en tant que dessinateur de BD, si.
Voilà, donc Mathieu Loffray, c'est le dessinateur de Long John Silver ou encore de Prophète. Il a également dessiné des couvertures de comics publiées chez Dark Horse, c'était les Star Wars, et il a également officié en tant que concept artiste sur pas mal de films hollywoodiens, j'y viendrai après. Alors cet artbook, vraiment une pagination très importante, un grand format avec un bon choix iconographique et c'est un bel objet édité chez Café Salé Inc. Donc qui permet de montrer les nombreuses cordes de l'arc de l'artiste qui est né en 70, passionné de dessin dès son plus jeune âge, et il a étudié aux Arts Déco de Paris où il rencontre Denis Bajram de Universal War One qui préface d'ailleurs ce livre. Donc les premières pages du livre, donc ça permet de faire connaissance avec l'univers du bonhomme. Donc évidemment, comme n'importe quel dessinateur qui dessine des grands personnages d'aventure, donc il a été bercé quand il était enfant avec les aventures de Little Nemo, de Tintin, Strange, Tarzan pour les bandes dessinées. Il y a aussi un large panel de films qui vont de l'aventure à la science-fiction, comme La Planète des Singes, Voyage au centre de la Terre, Star Wars, Superman. Donc il y a des pleines pages au début du livre avec les illustrations, les affiches vintage de ce genre de films ou de ce genre de bandes dessinées. Alors, ce qu'il faut savoir avec Mathieu Loffray, c'est que, bon, au début, on est vraiment un petit peu dans l'enfonçage de porte ouverte, où, oui, quand j'étais gamin, je rêvais d'être pirate, j'aimais bien l'appel de l'aventure, de l'inconnu, etc. Bon, c'est vrai qu'il est assez bavard, le bonhomme, au travers d'entretiens avec David Doucan, comédien et ancien collaborateur au magazine Mad Movies, mais c'est vrai que on s'en rend vite compte que c'est quelqu'un qui est passionné de l'aventure avec un grand A, et surtout, pour le premier degré, des aventuriers, des pirates, c'est jamais avec du cynisme, c'est vraiment premier degré. Ensuite, donc chapitre bande dessinée, ça permet de voir ce qu'il a fait. Donc il a fait Long John Silver, Prophète, j'en parlais. Il y a aussi des nombreux entretiens avec le scénariste Xavier Dorisson. On a
Alex Alice, Fabien Nury, hein, qui sont des scénaristes qui en général, c'est vrai, font beaucoup de l'épique et tout ça et assez enlevé.
On a une interview très intéressante de François Lebescon qui est le directeur éditorial adjoint de Dargo et qui vient justement témoigner sur la fabrication de la couverture du tome 1 de Long John Silver, où il raconte justement que c'était vraiment pas, il y a eu une multiplication d'allers-retours. Et donc il disait alors là ça allait pas, finalement c'était trop évocateur, pas assez mystérieux, et puis finalement ils se sont mis d'accord sur une illustration du pirate de nuit sous la pluie de dos en gros plan. Et donc il disait c'est typiquement ce qu'on voulait faire passer comme message, c'est-à-dire le lecteur, en fait, comme le personnage est de dos, en fait il s'identifie à ça et puis il est plongé dans une espèce de monde dark nocturne et pluvieux, et donc c'est un appel de l'aventure qui happe le lecteur. Alors ça c'est super intéressant pour les conceptions de couverture. Ensuite on a le parcours de Mathieu Loffray dans le cinéma. Alors là, c'est totalement autre chose. Ces illustrations servent à vendre des projets, à convaincre des financiers d'investir dans des films, également de commencer à mettre
c'est purement papier, du concept art quoi.
Du concept art. Alors il explique ce qu'est le concept artiste et notamment le peu de considération pour ce genre d'artiste dans le cinéma français. Donc il explique les divergences entre justement la conception de ce métier-là aux États-Unis par rapport à la France. Donc ça c'est méga intéressant pour ceux qui sont passionnés de cinéma d'aventure.
C'est vrai que aussi l'énorme différence c'est que en France les films sont plus achetés par les chaînes de cinéma qui en général achètent plus sur le name dropping, c'est-à-dire qui c'est qu'il y aurait comme acteur
par
rapport aux États-Unis. Aux États-Unis quand même, si tu fais pas un film, grand acteur, ça ne marche pas.
Ouais, non mais ça a rien à voir avec ça en fait. C'est surtout le fait que aux États-Unis il y a une grosse part des films qui sont donnés au visuel et les armadas de techniciens, de concepteurs de décors, de rough artistes et tout sont beaucoup mieux considérés là-bas, alors qu'en France on a plutôt tendance à considérer que c'est le chef op qui fait tout et les concept artistes c'est plutôt une dépense de pognon inutile. C'est ce qu'il explique dans le livre. Par contre ça l'a pas empêché donc justement d'aller travailler sur le film 10 000 de Roland Emmerich, une espèce de bouse avec des pyramides mayas et des éléphants, des mammouths que j'avais déjà chroniqué dans cette émission d'ailleurs. On ne peut pas faire les liens à la volée, donc c'est dommage. Donc par contre en France forcément il fallait un réalisateur visuel, un réalisateur dans la pure tradition du cinéma d'aventure international. Donc évidemment, est-ce que si vous pensez à Christophe Gans, vous avez dans le mille. Et donc c'est lui qui a travaillé sur les concepts art de nombreux projets. Ah oui, pléonasme, Christophe Gans, projet avorté. nombreux projets avortés. Fantomas, Nemo, Lord of the Apes, quand il voulait adapter Rahan ou Tarzan, je sais plus ce qu'il voulait faire. Donc là, il a travaillé pas mal avec Christophe Gans sur ces films-là. Et alors pour le projet qui s'est concrétisé, eh ben c'est lui qui a fait les croquis préparatoires, les aquarelles et les croquis de la Bête du Gévaudan dans Le Pacte des Loups. Ce sont des croquis que l'on voit dans le film d'ailleurs, puisque le personnage de Fronsac incarné par Samuel Le Bihan est un naturaliste, un dessinateur, donc on voit les dessins dans le film, et on voit même d'ailleurs Fronsac en train de dessiner dans le film, et c'est la main lui-même de Mathieu Loffray qui est filmé en direct sous les yeux du spectateur. Donc il a aussi également travaillé avec un ami de Christophe Gans, un autre cinéaste qui est Pascal Laugier, qui a fait aussi dans le film de genre avec Saint-Cyr, Martyr, non pas Saint-Cyr, Saint-Ange, pardon. Et donc justement, il raconte les différentes manières de travailler, puisque il dit que Christophe Gans est plutôt un aventurier, plutôt un réalisateur, un cinéaste du cinéma d'aventure, alors que Pascal Laugier, bien qu'il fasse aussi des films de genre, est plutôt un réalisateur cérébral, plus à la Cronenberg, beaucoup plus tourmenté. Et donc, d'une façon très pédagogique, très intéressante dans le livre, il raconte les différentes façons d'aborder un cinéaste, donc il ne se comporte pas de la même façon et il ne pond pas les mêmes images, que ce soit Christophe Gans ou que ce soit Pascal Laugier, également pour des raisons budgétaires évidemment. Et donc il explique que
pour le budget alloué à, au film de Pascal Laugier, pour, c'est un film qui se passait aux États-Unis, qui était tourné aux États-Unis, et ben, justement, le budget était très 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 serré, donc il n'avait droit qu'à un nombre très restreint d'images, et donc il a dû se mettre d'accord avec le cinéaste pour pondre certaines images avec certains personnages dedans, et on voit justement aussi une interview de Pascal Laugier où il explique justement en quoi il a répondu à ses attentes.
Moi, j'aime bien, c'est en plein milieu, tu as un hommage à Guarnido, de Black Sad. Et franchement, c'est là où il est capable de faire autre chose justement que de la pure fantasy ou de la SF. Là, c'est assez agréable. Il y a aussi un autre hommage, une couverture Technic Art pour autour de Miami Vice, assez hallucinante. Et à la limite même, ben, c'est l'affiche où la jaquette DVD qu'on aurait vraiment rêvé avoir de ce côté-là.
Ah oui, il y a du beau boulot. Il y a même un tuto à la fin pour faire de la peinture traditionnelle parce qu'il c'est un artiste traditionnel et numérique.
Oui, oui, il mélange les deux justement. Hein, il explique justement, on voit très bien quand il fait du numérique, etc., ou quand il fait de l'encre ou de l'aquarelle. Ça, c'est vraiment un book assez complet, quoi.
Ah oui, oui. En plus, il y a vraiment un chapitre ancrage avec des très gros plans, des pleines pages des ancrages de ces pirates. Et justement, il explique que c'est pas du tout la même façon de produire des images quand tu fais de l'ancrage, quand tu fais de la bande dessinée, où tu dois synthétiser le dessin par rapport au concept art qu'il doit faire pour le cinéma. Et ça, si tu es dessinateur, si tu sais pas dans quoi t'engager, si tu es cinéphile, c'est de l'or en barre. Franchement, l'un des meilleurs artbooks édités chez Café Salé Inc. Peut-être que ça me parle un peu plus également parce que ça a trait au cinéma, à des films qu'on a vus. Mais franchement, là déjà la couverture, vous êtes happé dans l'univers des pirates avec Long John Silver, avec le coffre, la lanterne dans un paysage nébuleux avec l'épée. Voilà, Mathieu Loffray, Axis Mundi, un artbook qui est sorti depuis quelques temps déjà, quelques mois chez Café Salé Inc, mais qui est encore disponible dans toutes les bonnes crèmeries comme on dit. Il faut savoir que Café Salé Inc, ils ont
une politique de artbook qui est pas très chère en général.
Voilà, c'est exactement ça.
Là, c'est vraiment un très 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 beau bouquin. Moi, je pense que il serait chez un autre éditeur, il serait aux alentours 45-50 euros.
Oui, là, il est beaucoup moins cher. Et en plus, c'est un bel objet. Vous pouvez regarder, c'est du papier glacé. Vous avez plein d'images de partout avec des créatures de rêve, des créatures féminines, des sorciers, des vampires, des monstres partout.
C'est pas souvent aussi, j'ai l'impression, chez Café Salé qu'il y a des interviews de collaborateurs. Et là, dans ce cas-là, ben, d'autres éditeurs de bande dessinée qui ne sont pas forcément justement dans les collaborateurs de Café Salé ou d'Ankama. Là, justement, ben, le Bescon, hein, on l'a déjà eu en interview d'ailleurs, justement. Ouais. Justement, la plupart des personnes qui interviennent, comme Alex Alice, voilà, je vais y arriver, ou Bajram, on les a eus, ils sont plutôt agréables, et justement, c'est intéressant d'avoir l'éclairage de ce côté-là. Très beau livre. Point intéressant sur la maquette, c'est vraiment le titre, c'est juste une ligne. Si on enlève le badge jaune, etc., on a vraiment un très 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 beau tableau d'entrée. Et c'est vrai que ce côté-là, voilà, ça pose, je vais dire, déjà en soi l'image.
C'est une ode à la rêverie, à l'aventure, l'appel de l'aventure, loin de beaucoup de productions d'aujourd'hui qui sont cyniques et qui misent sur le second degré. Là, c'est vraiment un passionné d'aventure, et pour les passionnés de Tarzan et de bande dessinée à l'ancienne et de films qui font rêver sans se poser beaucoup de questions.
Attends, tu veux dire que 10 000 BC te faisait rêver?
Non, j'ai pas dit ça non plus. J'avais descendu le film de Roland Emmerich d'ailleurs. Donc Mathieu Loffray, Axis Mundi chez Café Salé Inc. Voilà, vous le conseille chaudement.
Juste une question, est-ce que ça te donne envie de lire ces séries?
Ah oui, et là, Long John Silver, vu comment il en parle, et oui, carrément.
Donc voilà, tu es carrément à fond de ce côté-là. 12h58 minutes et 40 secondes, on va rester dans le cinéma pour le coup. Hein. Là, on fait deux émissions qui sont très, très, très silver screen. Ma foi, ça fait peur! De source, High Scream. We'll be right back. La chronique cinéma vous est présentée en 3D non stéréoscopique par Ultimatum, et c'était la musique qu'il fallait en fait pour le film dont on va parler maintenant.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour introduire la chronique cinéma, on trouve toujours des mots techniques complètement abracadabrantesques et inédits. Hein. Non stéréoscopique, Dolby Mono Surround, voilà.
Ouais, c'est toujours de l'intro, c'est toujours un... C'est pas préécrit, hein, c'est l'un des rares trucs pas préécrits dans cette émission.
Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un livre qui est sorti il y a plusieurs mois, et bien maintenant, je vais vous parler d'un film qui est sorti début juillet, mais qui est toujours à l'affiche, donc qui s'appelle Monstre Academy.
Okay.
Donc un Pixar qui sort au supplément week-end, on le chronique, c'est comme ça, c'est une tradition personnelle. Donc Monstre Academy, le nouveau film donc des studios Pixar, réalisé par Dan Scanlon. Et donc c'est évidemment, comme vous le savez tous, qui vous intéressez aux films d'animation, c'est l'après-quel, ça se passe avant le film Monstre et Compagnie qui était sorti en 2002. Alors... ça raconte l'histoire d'un monde peuplé de monstres. Le petit Bob Razowski rêve depuis tout petit alors surtout depuis une sortie scolaire, de devenir une vraie terreur, comprenez par là, pas une terreur dans les cours de récré, mais plutôt une terreur intégrée à la section terreur de la prestigieuse université Monstre Academy, qui forme les plus grosses terreurs pour aller ensuite grossir les rangs de la société Monstre et compagnie, pour aller terroriser les petits enfants au-delà des portes. Alors Bob, il est plutôt cérébral, accrocheur et très motivé, et son plan de carrière est tout tracé jusqu'au jour, bien sûr, où il croise Sullivan. Avant d'être son meilleur ami dans Monstre et Compagnie, ben c'est surtout un crack doté d'un vrai don pour terrifier à l'école, mais qui n'en fout pas une sur les bancs de l'école. Plutôt le gars qui se la pète, qui est pas sérieux, qui se fout complètement de ses études, qui pense qu'à s'amuser et à frimer pour intégrer les équipes, on va dire les, je sais pas comment on appelle ça, les groupes de, les groupes scolaires où il faut être avec la veste qui va avec, je sais pas comment on appelle ça.
Des poseurs.
Non, pas les poseurs, mais les, tu sais, les castes, les groupes où il faut que tu sois accepté dans les castes ou pas, tu sais,
les bandes,
les confréries, voilà, les confréries.
Ah oui, pardon,
les confréries collégiens, merci de m'avoir aidé. Alors, en voulant justement se prouver l'un à l'autre qu'ils sont imbattables, eh ben, ils provoquent catastrophe sur catastrophe, notamment, ils s'en prennent involontairement à la doyenne, qui, faut pas faire chier justement, et ils finissent par se faire envoyer de l'université par la doyenne, donc Hardscrabble. Hélène Mirren en VO, Catherine Deneuve en VF. Très très bien.
Ah oui, quand même.
La seule manière pour eux de rester dans l'école, justement, c'est de faire un pari avec la doyenne et de gagner le grand concours de terreur. Et pour gagner le grand concours de terreur, c'est un concours par équipe. Et il faut qu'ils s'intègrent dans une équipe. La seule confrérie qui veut d'eux, ce sont les Ouzma Kappa, qui sont quand même une bande de boy scouts losers. Bref, c'est pas gagné. Donc, voilà le... Pardon. Voilà le concept du film Monstre Academy. Donc évidemment, vous voyez grosso modo le schéma. Bob qui a la connaissance universitaire... Sully qui a la corpulence, la pratique et la, on va dire, les atouts physiques, et puis aussi un certain héritage familial, puisque les Sullivan, c'est une grande famille de terreur qui doit se transmettre de père en fils. Alors donc c'était évidemment c'était pas facile de passer derrière Monstres et Compagnie, puisque c'était l'un des films, sinon le plus réussi des studios Pixar. Par contre, c'était plus facile de passer derrière les deux précédentes productions de studios qui étaient franchement pas très des grosses réussites. On va passer sur Rebelle qui avait connu des soucis de production, mais surtout après Cars 2 qui était vraiment
c'est ça le problème, c'est que c'est de plus en plus inquiétant que Pixar devienne plus en fait une usine à suite, ce que l'on reprochait à DreamWorks, que une usine à que une maison où en sortaient des histoires absolument extraordinaires.
Alors dans cette nouvelle production, on assiste grosso modo à un mélange entre Harry Potter et les College Movie. Donc les College Movie avec toutes les codes que ça comporte, les confréries rivales, les soirées étudiantes, les chambres avec les posters, les rivalités avec les cracks, la compétition sportive où se portent toutes les attentes, évidemment où tu as des duels avec le beau gosse du lycée ou le gars là qui sème la terreur et que t'es un peu son souffre-douleur. Donc forcément on retrouve tout ça dans ce film là. Franchement moi, alors je sais pas si j'y suis, c'est parce que j'y suis allé avec le petit où j'étais justement précipité dans l'ambiance, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai été très très bon public sur ce film là. Le scénario est cousu de fil blanc mais bourré de gags qui fonctionnent. Je trouve la principale qualité du film, c'est qu'ils ont pas voulu en faire trop avec les références au premier film, avec les clins d'œil. Vous avez vu le personnage qui passait dans le premier, ben on le met au second plan là, et puis on fait plein de références. Comme ça, on vous fait vous sentir intelligent, et puis vous nous aimez en contrepartie. Ils sont pas trop allés là-dessus. À part, il y a une surprise au début, c'est que Bob, quand il arrive à l'université, on lui dit « t'as déjà un coloc, tu verras, il est dans la section terreur comme toi. » Donc forcément, tout le monde pense à Sullivan. Et ben, il se trouve à faire équipe dans la chambre avec le caméléon Léon, le méchant du premier film. Et qui est une crème en fait au début de celui-là. On voit que c'est un gentil étudiant. Alors bon, ça c'est la principale surprise du film. Alors la grosse évidemment
Le gros prétexte à situation comique, forcément, c'est la cohabitation avec les autres membres de Ouzma Kappa, cette confrérie de losers. Alors, on va dire que le leader, c'est un gars, bon alors c'est que des monstres, bien sûr, donc c'est... Le leader, c'est une espèce de poulpe avec des ventouses sur les bras, forcément, avec une moustache en forme de cape de chauve-souris de Batman, et qui a un polo vert, on dirait, mais franchement, Ned Flanders en version monstre. C'est vraiment le gars coincé au possible, le Benjamin du groupe avant que Bob arrive. Donc c'est un espèce de petit gars tout rondelé avec plein d'yeux. Et puis justement la première nuit qui passe quand ils sont acceptés par la confrérie, c'est qu'ils doivent faire le baptême du feu, où ils doivent prêter serment avec gros cérémonial, avec des gars en toge et tout, où ils doivent jurer fidélité aux Ouzma Kappa. Et justement il y a la mère du petit, parce qu'ils sont chez elle en fait, et qui interrompt la cérémonie en allumant la lumière dans le garage, qui va faire sa machine à laver. Et donc t'as les autres membres de la confrérie qui essaient de faire l'ambiance avec les bougies et tout, et puis en fait t'entends derrière voilà, donc mais ne vous inquiétez pas pour moi, faites comme si j'étais pas là.
Alors, ça sent le vécu.
Voilà, c'est très très rigolo. Donc il y a plein de gars comme ça qui sont super drôles. À un moment donné ils doivent aller s'introduire dans une entreprise de nuit, et ils sont devant un grillage, donc derrière il y a la méga entreprise qui est le rêve de Bob de l'intégrer, et puis il y a les Ouzma Kappa derrière qui disent ouais c'est magnifique, et puis il y en a un qui est pas très futuriste, il dit ouais c'est un beau grillage. Donc c'est que des gars comme ça. Franchement, tu rigoles du début à la fin. T'as pas ce sentiment de lassitude que t'avais dans les deux précédents films avec Cars 2 et Rebelle. C'est un film, franchement, moi qui m'a paru fonctionner très très bien. La fin, méga réussite, puisque c'est un hommage vraiment qui vient des tripes au film d'épouvante, puisque justement il y a une incursion dans le monde des humains. Et ils doivent, pour s'en sortir, essayer de faire le plus peur possible. Et alors, pendant tout le film, tu vois qu'ils apprennent des recettes pour essayer de faire le plus peur possible aux petits-enfants. Donc, mettre des coups de griffe dans le lit, jouer avec les bruits. Et à la fin, c'est une maison hantée, mais vue du point de vue des monstres. Et ça, c'est très très rigolo et ça fonctionne très très bien d'un point de vue cinématographique. C'est juste parfait. Voilà, après le film t'as plein de péripéties, tu vois grosso modo comment ça va finir, mais la morale du film justement c'est assez surprenant, puisque tout le monde voit comment Bob est dans le Monstre Academy, qui est clairement, c'est pas lui qui fait peur, c'est Sullivan, lui il est juste le bras droit. Et en fait pendant tout ce film là, le nouveau film Monstre Academy, et bien en fait son rêve c'est de devenir une terreur. Tout le monde sait comment ça va finir, il va pas y arriver. Et justement pendant tout le film tu vas voir comment malgré tout il continue à y croire. Tout le monde est persuadé qu'il arrivera jamais à faire peur à qui que ce soit, mais lui il y croit dur comme fer. Et puis tu te prends à rêver comme lui, mais tout en sachant qu'il y arrivera pas. Et c'est justement l'histoire d'une défaite. Une défaite magnifique, mais d'une défaite quand même. Et c'est assez rare pour être souligné dans un film d'animation où c'est justement toujours le héros, malgré ses handicaps, malgré le fait qu'il n'est pas gâté par la vie, et bien il y arrive. Ben là, forcément, il n'y arrive pas. Ou alors, il y arrive, mais pas à ce qu'il aurait voulu au départ. Donc voilà, ça, c'est ça le point de vue intéressant. Donc évidemment, casting en VO, en béton armé, Billy Crystal, John Goodman, Hélène Mirren, Steve Buscemi, Alfred Molina, Nathan Fillion... Oh, Nathan Fillion qui fait justement le crack adversaire, l'antagoniste, le némésis de Bob Razowski dans le film. Justement,
ça lui va bien le rôle de méchant finalement quand il avait fait Captain Hammer dans Doctor Horrible.
Ah ben justement là il fait le méchant, mais c'est vraiment le méchant à qui tout sourit, parce que c'est le crack du collège.
Je vais publier tout à l'heure sur mon blog, mais j'ai une photo de Nathan Fillion tout à l'heure qui est absolument horrible. Il est avec des chatons.
Ah ben oui. Ouais, les photos avec les chatons, c'est horrible.
C'est horrible.
Alors Monstre Academy, franchement, c'est ça. On peut dire quand même, faut pas se voler la face, que c'est un Pixar mineur. Mais de là où il partait sur les deux précédents films, je pense qu'il relève le niveau. C'est un excellent film d'animation. Peut-être pas le plus. On va dire là où ils ont le plus essayé de choses, ils sont en terrain conquis, mais il fallait ça pour redorer le blason. Les deux prochains Pixar, hormis Planes, puisque c'est vraiment la suite mercantile de Cars,
on a la bien chose senti.
Avec des avions. Mmh. Les deux prochains Pixar, apparemment, ce sont des histoires originales. Dernier mot par rapport au Pixar. Donc vous savez tous qu'il y a une tradition, c'est qu'il y a un petit court métrage d'animation avant le film. Forcément, si vous avez, si vous allez,
c'était un peu moins fréquent hein, ces derniers temps.
Oui, mais si vous allez dans les multiplex, on va dire en banlieue de Toulouse, vous ne l'aurez absolument pas. Donc moi, ben j'ai pas eu mon petit court métrage de Pixar juste avant. Voilà, donc bon, voilà. Donc Monstre Academy, pardon, la préquelle de Monstre Academy de Dan Scanlon des studios Pixar, très très bien. Je vous le conseille, il est sorti début juillet, mais il est encore là. Profitez-en, il n'y a pas vraiment trop de spectateurs encore dans les salles, mais si vous cherchez à occuper les petits, ou si vous voulez vous occuper, vous, l'âme d'enfant qui sommeille dans votre corps d'adulte, et que vous êtes toujours en amour devant les bons films d'animation bien faits, mais Monstre Academy est pour vous.
Alors moi, tu m'inquiètes un peu dans ta chronique, parce que Primo...
J'espère que je ne t'ai pas inquiété trop.
Bah, je m'inquiète... En fait, tout simplement parce que la manière dont tu le racontes, c'est très bien pour essayer d'exorciser les gamins, des peurs, etc. Et ça a l'air de marcher de la manière dont tu le racontes. Mais on est toujours dans ce que l'on reproche dans les autres films de 3D et que Monstre et que Pixar est tombé par la suite un petit peu plus tard. Mais malheureusement, ils y sont tombés. C'est doublé par des acteurs qui sont pas des doubleurs. Et moi, ça m'inquiète un peu.
Alors oui et non, c'est-à-dire que le casting, si tu fais, alors j'ai pas mentionné.
Je sais pas si tu es allé le voir en VF.
Je suis allé le voir en VF, bien sûr. Ben oui, quand tu vas avec un enfant. Mais par exemple, Billy Crystal qui fait Bob Razowski. Bon, Billy Crystal est un acteur comique, donc ça colle parfaitement. John Goodman, c'est l'acteur le gros que tu vois dans les chez les frères Cohen. C'est le juif dans le Big Lebowski qui est accro au Shabbat. Donc lui, en Sullivan, il est parfait puisque c'est la corpulence va avec. Hélène Mirren en Hardscrabble, c'est une espèce de doyenne aristocrate. Qui est vraiment pas sympa. Donc Hélène Mirren qui a interprété pas mal de rôles shakespeariens, elle est parfaite également. Donc Deneuve en VF, c'est parfait. Steve Buscemi en espèce de petite fouine, le caméléon qui est le méchant, mais il est parfait également. Alfred Molina en prof, Alfred Molina, c'était Docteur Octopus dans Spider-Man 2, donc c'est le gars qui a quand même une autorité naturelle. Et puis Nathan Fillion dans le rôle du crack Némésis du héros qui
se la pète à fond.
Ben ouais, franchement, ils ont pris des bons des gars qui correspondaient aux personnages. Et puis voilà, après il y a voilà dans la VF, tu as Eric Métayer dans le rôle de Bob, t'as Jamel Debbouze qui fait une voix d'un monstre, c'est un monstre rigolo, oui, ça le fait quand même. Donc, mais par contre, par rapport à ta remarque sur la morale, sur les monstres, alors en fait, l'exorciser les peurs, c'était plutôt dans le premier film avec la petite fille, où on voyait justement le fait qu'elle pouvait avoir aussi peur de ce rival. Là, c'est plus du tout le même propos, c'est plutôt, on fait un film de collège, movie, avec des petits monstres qui essaient de faire avec leur handicap et leurs atouts physiques, c'est comme les X-Men en fait, c'est apprendre à gérer sa mutation, à gérer sa différence. C'est pas du tout le même esprit que le premier monstre. Monstre et compagnie.
Merci beaucoup. Et donc vous le savez, une partie du cast n'est pas là cette semaine.
Machidanois.
Non, on va pas faire une télé comme ça au pied levé, ça va être
difficile. Bah, on peut pas remplacer du sport de toute façon.
On peut pas. Vous l'aurez pas. Donc on va vous dire que on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce que tu iras voir Jobs? En tant que graphiste.
Non, parce que j'ai vu des critiques très négatives de gens qui connaissaient la vie de Jobs.
T'as vu l'interview de Wozniak sur Bloomberg, hein. Il n'a pas du tout été tendre envers le film. Hein. Ils en font un gagnant, etc. Mais c'était juste. Il était minable comme commercial dans les années 70-80. Il était minable, il est pas du tout comme ça dans le film.
Et surtout, si tu... Apparemment, le film passe sous silence complètement l'antagonisme avec Bill Gates.
Un antagonisme un petit peu particulier. Hein. Ouais, il y avait ce pseudo-complicité, mais en même temps assez méchant. On a une scène dans la bande-annonce où on les voit dans une fair, hein, c'est-à-dire une grande exposition où ils présentent l'Apple II, etc. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que juste en face, un petit peu plus loin, il y avait Bill Gates avec donc son associé de l'époque, avant qu'il y ait une attaque cérébrale, qui faisait la gueule, etc. Ça a été fait beaucoup mieux expliqué dans un téléfilm sur les hackers de la Silicon Valley des années 70 qui était diffusé sur TCM Cinéma il y a une dizaine d'années.
En tout cas, j'ai entendu dire qu'il y avait une autre bio qui était beaucoup plus officielle sur Steve Jobs, et là par contre chapeauté par les pontes d'Apple, donc
on verra sur la trois gloire. Moments clés, voilà, ouais. Donc de Jobs. Donc c'est un autre style d'écriture, c'est Aaron Sorin d'ailleurs si je me trompe qui fait le scénario.
Donc du coup, donc je n'irai pas voir Jobs. Par contre, je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler la semaine prochaine.
Mais rassure-moi, tu peux au moins faire un résumé pour ceux qui n'ont pas manqué le début de l'émission.
Ah ben généralement, oui, je peux faire un résumé. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait puisque nous n'étions que deux et nous devions tenir la boutique que nous avons eue.
Ah, c'est surtout toi qui l'as tenu là.
Nous avons couvert les rencontres au cinéma de Jeanne Doux avec l'intervention par téléphone de l'excellente Monique Blanquet. Nous avons eu une nécrologie consacrée à Edmond Léonard, romancier de polar et de western. Nous avons eu la chronique d'un livre sur des pirates et sur les affres du concept art cinéma et les projets qui sont abandonnés lâchement dans les noirceurs, les profondeurs infernales. Et nous avons eu également une ode à la différence, à la monstruosité qui est en nous et au collège.
C'est joli, pas mal. Mais si vous avez manqué tout ça, je vous rassure, hein, heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, réécouter des phrases si vous les avez mal comprises. Vous pouvez aussi aller dans les précédentes émissions, par exemple, justement, l'interview de Dieu Connard que l'on a passé en extrait, lire nos chroniques écrites, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas, profitez-en. Vous pouvez prendre contact avec nous aussi, il suffit d'aller sur le site web de l'émission suppléments-weekend.fr sans accent ni tiré, suppléments-weekend.fr. Normalement, la semaine prochaine, je crois que du sport revient, mais je suis pas sûr.
Rien n'est moins sûr, mon cher.
Oh là là. Vous écoutez FMR sur les 89,1 mégacycles en modulation de fréquence analogique. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode de... peut-être que je vais faire revenir un enquêteur archéologue. Et toi, qu'est-ce que tu aurais?
Ah ben, je n'ai rien de mieux que Indiana Jones. C'est pas Indiana Jones?
Non, c'est pas Indiana Jones.
Un enquêteur archéologue? Benjamin Gates? Nicolas Cage? Non.
Non, c'est du manga. Allez, on se retrouve même heure, même fréquence la semaine prochaine avec une émission peut-être un petit peu plus complète. Ciao, bye bye, merci à tous, merci à Monique Blanquet et à Dominique pour le direct de Jeanne Doux et merci surtout de votre fidélité et de votre amitié. C'est un plaisir de revenir à l'antenne toutes les semaines pour vous. Ciao, bye bye.